Crime et châtiment, sixième partie, chapitre 5. Jusqu'à 10 heures du soir, Arkady Ivanovitch Svidrigaïlov courut les bouges et les tractires. Ayant retrouvé Katia dans un de ses endroits, il lui paya des consommations ainsi qu'aux joueurs d'orgue, aux garçons et à deux petits clercs verts qui l'avaient attiré une sympathie bizarre. Il avait remarqué que ces deux jeunes gens avaient le nez de travers et que le nez de l'un était tourné à droite, tandis que celui de l'autre regardait à gauche. Finalement, il se laissa entraîner par eux dans un « jardin de plaisance » où il paya leur entrée. Cet établissement, décoré du nom de « Wow Hall », n'était au fond qu'un café chantant de bas étage. Les clercs y rencontrèrent quelques collègues et se prirent de querelles avec eux. Peu s'en fallut que l'on en vint aux mains. Svidrigaïlov fut choisi comme arbitre. Après avoir écouté pendant un quart d'heure les récriminations confuses des parties en cause, il crut comprendre qu'un des clercs avait volé quelque chose et l'avait vendu à un juif, mais sans vouloir partager avec ses camarades le produit de cette opération commerciale. À la fin, il se trouva que l'objet volé était une cuillère à thé appartenant au Wow Hall. Elle fut reconnue par les gens de l'établissement et l'affaire menaçait de prendre une tournure grave si Svidrigaïlov n'avait désintéressé les plaignants. Il se leva ensuite et sortit du jardin. Il était alors près de 10 heures. Pendant toute la soirée, il n'avait pas bu une goutte de vin. Au Wow Hall, il s'était borné à demander du thé, et encore parce que les convenances l'obligeaient à se faire servir quelque chose. La température était étouffante et de gros nuages s'épaississaient dans le ciel. Vers 10 heures, éclata un violent orage. Svidrigaïlov arriva chez lui, trempé jusqu'aux os. Il s'enferma dans son logement, ouvrit son secrétaire, d'où il retira tous ses fonds et déchira 2 ou 3 papiers. Après avoir mis son argent en poche, il pensa à changer de vêtements, mais comme la pluie continuait à tomber, il jugea que cela n'en valait pas la peine, prit son chapeau et sortit, sans fermer la porte de son appartement. Il se rendit droit au domicile de Sonia, qu'il trouva chez elle. La jeune fille n'était pas seule. Elle avait autour d'elle 4 petits-enfants appartenant à la famille Kapernaumov. Sophie Semenovna leur faisait boire du thé. Elle accueillit respectueusement le visiteur, regarda avec surprise ses vêtements mouillés, mais ne dit pas un mot. À la vue d'un étranger, tous les enfants s'enfuirent aussitôt, saisis d'une frayeur indescriptible. Svidrigaïlov s'assit près de la table et invita Sonia à prendre place à côté de lui. Elle se prépara timidement à écouter ce qu'il avait à lui dire. « Sophie Semenovna, commença-t-il, je vais peut-être me rendre en Amérique, et comme, selon toute probabilité, nous nous voyons pour la dernière fois, je suis venu régler quelques affaires. Eh bien, vous êtes allé aujourd'hui chez cette dame? Je sais ce qu'elle vous a dit, inutile de me le raconter. » Sophia fit un mouvement et rougit. « Ces gens-là ont leurs préjugés. Pour ce qui est de vos sœurs et de votre frère, leur sort est assuré. L'argent que je destinais à chacun d'eux a été remis par moi en main sûre. Voici les récépissés. À tout hasard, prenez-les. Maintenant, voici pour vous personnellement 3 titres de 5% représentant une somme de 3 000 roubles. Je désire que cela reste entre nous et que personne n'en ait connaissance. » « Cet argent vous est nécessaire, Sophie Semenovna, car vous ne pouvez continuer à vivre ainsi. » »« Vous avez eu tant de bonté pour les orphelins, pour la défunte et pour moi, » balbutia Sonia. « Si je vous ai à peine remercié jusqu'à présent, ne croyez pas... »« Allons, assez, assez !»« Quant à cet argent, Arkady Ivanovitch, je vous suis bien reconnaissante, mais je n'en ai pas besoin maintenant. » N'ayant plus que moi à nourrir, je me tirerai toujours d'affaire. Ne m'accusez pas d'ingratitude si je refuse votre offre. Et puisque vous êtes si charitable, cet argent... Prenez-le, Sophie Semenovna, et je vous en prie, ne me faites pas d'objection. Je n'ai pas le temps de les entendre. Rodion Romanovitch n'a que le choix entre deux alternatives, se loger une balle dans le front ou aller en Sibérie. » À ces mots, Sonia se mit à trembler et regarda avec effarement son interlocuteur. « Ne vous inquiétez pas, » poursuivit Svidrigaïlov. « J'ai tout appris de sa propre bouche et je ne suis pas bavard. Je ne le dirai à personne. Vous avez été bien inspiré en lui conseillant d'aller se dénoncer. C'est de beaucoup le parti le plus avantageux qu'il puisse prendre. Eh bien, quand il ira en Sibérie, vous l'y accompagnerez, n'est-ce pas ? En ce cas, vous aurez besoin d'argent. Il vous en faudra pour lui, comprenez-vous ? La somme que je vous offre, c'est à lui que je la donne par votre entremise. De plus, vous avez promis à Amalia Ivanovna d'acquitter ce qui lui est dû. Pourquoi donc, Sophie Semenovna, assumez-vous toujours si légèrement de pareilles charges ? La débitrice de cette Allemande, ce n'était pas vous, c'était Catherine Ivanovna. Vous auriez dû envoyer l'Allemande à tous les diables. Il faut plus de calcul dans la vie. Allons, si demain ou après-demain, quelqu'un vous interroge à mon sujet, ne parlez pas de ma visite et ne dites à personne que je vous ai donné de l'argent. Et maintenant, au revoir. » Il se leva. « Saluez de ma part, Rodion Romanovitch. À propos, vous ferez bien, en attendant, de confier l'argent à M. Razoumikine. Vous connaissez sans doute M. Razoumikine. C'est un brave garçon. Portez-le lui demain, ou quand vous en aurez l'occasion. Mais d'ici là, tâchez qu'on ne vous le prenne pas. » Sonia s'était levée aussi et fixait un regard inquiet sur le visiteur. Elle avait grande envie de dire quelque chose, de faire quelques questions, mais elle était intimidée et ne savait par où commencer. « Ainsi vous allez vous mettre en route par un temps pareil ?»«
Quand on part pour l'Amérique, est-ce qu'on s'inquiète de la pluie ?»
« Adieu, chère Sophie Semenovna. Vivez et vivez longtemps. Vous êtes utile aux autres. À propos, faites donc mes compliments à M. Razoumikine. Dites-lui qu'Arkad Ivanovitch Svidrigaïlov le salue. N'y manquez pas. » Quand il l'eut quitté, Sonia resta oppressée par un vague sentiment de crainte. Le même soir, Svidrigaïlov fit une autre visite fort singulière et fort inattendue. La pluie tombait toujours. À 11h20, il se présenta, tout trempé, chez les parents de sa future, qui occupaient un petit logement dans Vassili Ostrov. Il eut grand-peine à se faire ouvrir, et son arrivée à une heure aussi indue causa dans le premier moment une stupéfaction extrême. On crut d'abord à une frasque d'homme ivre, mais cette impression ne dura qu'un instant, car, quand il le voulait, Arkad Ivanovitch avait les manières les plus séduisantes. L'intelligente mère roula auprès de lui le fauteuil du père infirme et engagea aussitôt la conversation par des questions détournées. Jamais cette femme n'allait droit au fait. Voulait-elle savoir, par exemple, quand il plairait à Arkad Ivanovitch que le mariage fût célébré ? Elle commençait par l'interroger curieusement sur Paris, sur le high life parisien, pour le ramener peu à peu à Vassili Ostrov. Les autres fois, ce petit manège réussissait très bien. Mais, dans la circonstance présente, Svidrigaïlov se montra plus impatient que de coutume et demanda à voir sur le champ sa future, quoiqu'on lui eût dit qu'elle était déjà couchée. Bien entendu, on s'empressa de le satisfaire. Arkad Ivanovitch dit à la jeune fille qu'une affaire urgente l'obligeant à s'absenter pour quelque temps de Pétersbourg, il lui avait apporté 15 000 roubles et qu'il la priait d'accepter cette bagatelle, dont il avait depuis longtemps l'intention de lui faire cadeau avant le mariage. Il n'y avait guère de liaison logique entre ce présent et le départ annoncé. Il ne semblait pas non plus que cela nécessitât absolument une visite au milieu de la nuit par une pluie battante. Néanmoins, si louches qu'elles pussent paraître, ces explications furent parfaitement accueillies.
à peine même si les parents témoignèrent quelques surprises devant des agissements aussi étranges. Fort sobres de questions et d'exclamations étonnées, ils se répondirent par contre en remerciements des plus chaleureux, auxquels l'intelligente mère mêla ses larmes. Svidrigaïlov se leva, embrassa sa fiancée, lui tapota doucement la joue et assura qu'il serait bientôt de retour. La fillette le regardait d'un air intrigué. On lisait dans ses yeux plus qu'une simple curiosité enfantine. Arkad Ivanovitch remarqua ce regard. Il embrassa de nouveau sa future et se retira en songeant avec un réel dépit que son cadeau serait à coup sûr conservé sous clé par la plus intelligente des mères. À minuit, il rentrait en ville par le pont de Hun. La pluie avait cessé, mais le vent faisait rage. Pendant près d'une demi-heure, Svidrigaïlov battit le pavé de l'immense perspective, paraissant chercher quelque chose. Peu de temps auparavant, il avait remarqué, sur le côté droit de la perspective, un hôtel qui, autant qu'il s'en souvenait, s'appelait l'hôtel d'Andrinople. À la fin, il le trouva. C'était un long bâtiment en bois où, malgré leur avancée, on voyait encore briller de la lumière. Il entra et demanda une chambre à un domestique en haillons qu'il rencontra dans le corridor. Après un coup d'œil jeté sur Svidrigaïlov, le domestique le conduisit à une petite chambre située tout au bout du corridor sous l'escalier. C'était la seule qui fut disponible. « Avez-vous du thé ?» demanda Svidrigaïlov. « On peut vous en faire. »« Qu'est-ce qu'il y a encore ?»« Du veau, de l'eau-de-vie, des hors-d'œuvre. » « Apportez-moi du veau et du thé. »« Vous ne voulez pas autre chose ?» demanda avec une sorte d'hésitation le laquais. « Non. » L'homme en haillon s'éloigna, fort désappointé. « Ce doit être quelque chose de propre que cette maison, » pensa Svidrigaïlov. « Du reste, moi-même, j'ai sans doute l'air d'un homme qui revient d'un café chantant et qui a eu une aventure en chemin. » « Je serais pourtant curieux de savoir quelle espèce de gens loge ici. » Il alluma la bougie et se livra à un examen plus détaillé de la chambre. Elle était fort étroite et si basse qu'un homme de la taille de Svidrigaïlov pouvait à peine s'y tenir debout. Le mobilier se composait d'un lit très sale, d'une table en bois verni et d'une chaise. La tapisserie délabrée était si poudreuse qu'on en distinguait difficilement la couleur primitive. L'escalier coupait en biais le plafond, ce qui donnait à cette pièce l'apparence d'une mansarde. Svidrigaïlov déposa la bougie sur la table, s'assit sur le lit et devint pensif. Mais un incessant bruit de voix qui se faisait entendre dans la pièce voisine finit par attirer son attention. Il se leva, prit sa bougie et alla regarder par une fente du mur. Dans une chambre, un peu plus grande que la sienne, il aperçut deux individus, l'un debout, l'autre assis sur une chaise. Le premier, en manche de chemise, était rouge et avait des cheveux crépus. Il objurguait son compagnon avec des larmes dans la voix. « Tu n'avais pas de position, tu étais dans la dernière misère, je t'ai tiré du bourbier et il ne tient qu'à moi de t'y replonger. » L'ami à qui s'adressaient ces paroles avait l'air d'un homme qui voudrait bien éternuer et qui n'y peut réussir. De temps à autre, il jetait un regard hébété sur l'orateur. Évidemment, il ne comprenait pas un mot de ce qu'on lui disait, peut-être même ne l'entendait-il pas. Sur la table, où la bougie achevait de se consumer, il y avait une carafe d'eau-de-vie presque vide, des verres de dimensions diverses, du pain, des concombres et un service à thé. Après avoir considéré attentivement ce tableau, Svidrigaïlov quitta son poste d'observation et revint s'asseoir sur son lit. En apportant le thé et le veau, le garçon ne put s'empêcher de demander encore une fois s'il ne fallait pas autre chose. Sur la réponse négative qu'il reçut, il se retira définitivement. Svidrigaïlov se hâta de boire un verre de thé pour se réchauffer, mais il lui fut impossible de manger. La fièvre, qui commençait à l'agiter, lui coupait l'appétit. Il ôta son paletot et sa jaquette, s'enveloppa dans la couverture du lit et se coucha. Il était vexé.
« Mieux vaudrait pour cette fois être bien portant », se dit-il avec un sourire.
L'atmosphère était étouffante, la bougie éclairait faiblement, le vent grondait au dehors, dans un coin se faisait entendre le bruit d'une souris. Du reste, une odeur de souris et de cuir remplissait toute la chambre. Étendu sur le lit, Svidrigaïlov rêvait plutôt qu'il ne pensait. Ses idées se succédaient confusément. Il aurait voulu arrêter son imagination sur quelque chose.
C'est sans doute un jardin qu'il y a sous la fenêtre. Les arbres sont agités par le vent. Que je déteste ce bruit d'arbres la nuit, dans la tempête et dans les ténèbres.
Il se rappela que tout à l'heure, en passant à côté du parc Petrovski, il avait éprouvé la même impression pénible. Ensuite, il songea à la petite Newa, et il eut de nouveau le frisson qu'il avait saisi tantôt, quand, debout sur le pont, il contemplait la rivière. « Jamais de ma vie je n'ai aimé l'eau, même dans les paysages », pensa-t-il. Et tout à coup, une idée étrange le fit sourire. « Il me semble qu'à présent, je devrais me moquer de l'esthétique et du confort. Pourtant, me voici devenu aussi difficile que l'animal qui a toujours soin de choisir sa place. » En pareille occurrence, si j'étais allé tantôt à Petrovski Ostrov, apparemment j'ai eu peur du froid et de l'obscurité. Il me faut des sensations agréables. Mais pourquoi ne pas éteindre la bougie ? Il la souffla. Mes voisins sont couchés, ajouta-t-il, ne voyant point de lumière dans la fente de la cloison. C'est maintenant, Marfa Petrovna, que votre visite aurait de la propos. Il fait noir, le lieu est propice, la situation est exceptionnelle, et justement, vous ne viendrez pas. Le sommeil continuait à le fuir. Peu à peu, l'image de Dounetchka se dressa devant lui, et un tremblement soudain agita ses membres au souvenir de la scène qu'il avait eue avec la jeune fille peu d'heures auparavant.
Non, ne pensons plus à cela. « Chose bizarre, je n'ai jamais beaucoup haï personne. Je n'ai même jamais éprouvé un vif désir de me venger de qui que ce soit. C'est mauvais signe, mauvais signe. Jamais non plus je n'ai été ni querelleur ni violent. Voilà encore un mauvais signe. Mais que de promesses je lui ai faites tantôt. Elle m'aurait mené loin. »
Il se tut et serra les dents. Son imagination lui montra de nouveau Dounetchka. Telle exactement qu'elle était, quand, après avoir lâché le revolver, incapable désormais de résistance, elle fixait sur lui un regard épouvanté. Il se rappela quelle pitié il avait eue d'elle en ce moment, comme il s'était senti le cœur oppressé.
« Oh diable, encore ces pensées! Ne songeons plus à tout cela !»
Déjà il s'assoupissait, son tremblement fiévreux avait cessé. Tout à coup, il lui sembla que sous la couverture, quelque chose courait le long de son bras et de sa jambe. Il tressaillit. « Diable, c'est sans doute une souris » pensa-t-il. « J'ai laissé le veau sur la table. » Craignant de prendre froid, il ne voulait pas se découvrir ni se lever. Mais soudain, un nouveau contact désagréable lui effleura le pied. Il rejeta la couverture et alluma la bougie. Puis, frissonnant, il se pencha sur le lit et l'examina sans y rien découvrir. Il secoua la couverture, et brusquement, une souris sauta sur le drap. Il essaya aussitôt de la prendre, mais tout en restant sur le lit, elle décrivait des zigzags de divers côtés et glissait sous les doigts qui cherchaient à la saisir. Tout à coup, la souris se fourra sous l'oreiller. Svidrigaïlov jeta l'oreiller par terre, mais au même instant, il sentit que quelque chose avait sauté sur lui et se promenait sur son corps par-dessous la chemise. Un tremblement nerveux s'empara de lui et il s'éveilla. L'obscurité régnait dans la chambre. Il était couché sur le lit, enveloppé, comme tantôt, dans la couverture. Le vent grondait toujours au dehors. « C'est crispant !» se dit-il avec colère. Il se leva et s'assit sur le bord du lit, le dos tourné à la fenêtre. Il vaut mieux ne pas dormir, décida-t-il. De la croisée venait un air froid et humide. Sans quitter sa place, Svidrigaïlov tira à lui la couverture et s'en enveloppa. Il n'alluma pas la bougie. Il ne pensait à rien et ne voulait pas penser. Mais des rêves, des idées incohérentes traversaient son cerveau. Il était comme tombé dans un demi-sommeil. Était-ce l'effet du froid, des ténèbres, de l'humidité ou du vent qui agitait les arbres? Toujours est-il que ses songeries avaient pris une tournure fantastique. Des fleurs s'offraient sans cesse à son imagination. Il lui semblait avoir sous les yeux un riant paysage. C'était le jour de la Trinité, le temps était superbe. Au milieu des plates-bandes fleuries, apparaissait un élégant cottage dans le goût anglais. Des plantes grimpantes s'enroulaient autour du perron. Des deux côtés de l'escalier, couverts d'un riche tapis, s'étageaient des potiches chinoises contenant des fleurs rares. Aux fenêtres, dans des vases à demi pleins d'eau, plongeaient des bouquets de jacinthes blanches qui s'inclinaient sur leurs hampes d'un vert cru et répandaient un parfum capiteux. Ces bouquets attiraient particulièrement l'attention de Svidrigaïlov, et il aurait voulu ne pas s'en éloigner. Cependant, il monta l'escalier et entra dans une salle grande et haute. Là encore, partout, aux fenêtres, près de la porte donnant accès à la terrasse, comme sur la terrasse elle-même, partout il y avait des fleurs. Les parquets étaient jonchés d'une herbe fraîchement fauchée et exhalant une odeur suave. Par les croisées ouvertes, pénétrait dans la chambre une brise délicieuse. Les oiseaux gazouillaient sous les fenêtres. Mais, au milieu de la salle, sur une table couverte d'une nappe de satin blanc, était placé un cercueil. Des guirlandes de fleurs l'entouraient de tous côtés, et à l'intérieur, il était capitonné de gros de Naples et de ruches blanches. Dans cette bière reposait, sur un lit de fleurs, une fillette, vêtue d'une robe de tulle blanc. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine, et on les aurait pris pour ceux d'une statue de marbre. Ses cheveux, d'un blond clair, étaient en désordre et mouillés. Une couronne de roses ceignait sa tête. Le profil sévère et déjà roidi de son visage semblait aussi découpé dans le marbre. Mais le sourire de ses lèvres pâles exprimait une tristesse navrante, une désolation qui n'appartient pas à l'enfance. Svidrigaïlov connaissait cette fillette. Il n'y avait près du cercueil ni image pieuse, ni flambeau allumé, ni prière. La défunte était une suicidée, une noyée. À 14 ans, elle avait eu le cœur brisé par un outrage qui avait terrifié sa conscience enfantine, rempli son âme angélique d'une honte imméritée et arraché de sa poitrine un suprême cri de désespoir, cri étouffé par les mugissements du vent au milieu d'une sombre et humide nuit de dégel. Svidrigaïlov s'éveilla, quitta son lit et s'approcha de la croisée. Après avoir cherché à tâtons l'espagnolette, il ouvrit la fenêtre, exposant son visage et son torse, à peine protégé par la chemise, aux atteintes du vent glacial qui s'engouffrait dans l'étroite chambre. Sous la fenêtre, il devait y avoir en effet un jardin, probablement un jardin de plaisance. Là, sans doute, pendant le jour, on chantait des chansonnettes et on servait du thé sur de petites tables. Mais maintenant tout était plongé dans les ténèbres, et les objets ne se désignaient à l'œil que par des taches noires à peine distinctes. Durant 5 minutes, Svidrigaïlov, accoudé sur l'appui de la croisée, regarda au-dessous de lui dans l'obscurité. Au milieu de la nuit, retentirent 2 coups de canon. « Ah ! C'est un signal ! La Neva monte » pensa-t-il. Ce matin, les parties basses de la ville vont être inondées. Les rats seront noyés dans les caves. Les locataires des rez-de-chaussée, ruisselant d'eau, maugréants, opéreront au milieu de la pluie et du vent le sauvetage de leurs bibelots. Ils devront les transporter aux étages supérieurs. Mais quelle heure est-il ? Au moment même où il se posait cette question, une horloge voisine sonna 3 coups. « Hé ! Dans une heure, il fera jour. Pourquoi attendre? Je vais partir tout de suite et me rendre dans l'île Petrovski. » Là-dessus, il ferma la fenêtre, alluma la bougie et s'habilla. Puis, le chandelier à la main, il sortit de la chambre pour aller éveiller le garçon, régler sa note et quitter ensuite l'hôtel. C'est le moment le plus favorable, on ne peut pas en choisir un meilleur. Il erra longtemps dans le corridor long et étroit. Ne trouvant personne, il allait appeler à haute voix, quand tout à coup, dans un coin sombre, entre une vieille armoire et une porte, il découvrit un objet étrange, quelque chose qui semblait vivant. En se penchant avec la lumière, il reconnut que c'était une petite fille de 5 ans environ. Elle tremblait et pleurait. Sa petite robe était trempée comme une lavette. La présence de Svidrigaïlov ne parut pas l'effrayer, mais elle fixa sur lui ses grands yeux noirs avec une expression de surprise hébétée. De temps à autre, elle sanglotait encore, comme il arrive aux enfants, qui, après avoir longtemps pleuré, commencent à se consoler. Son visage était pâle et défait. Elle était transie de froid. Mais par quel hasard se trouvait-elle là? Sans doute elle s'était cachée dans ce coin et n'avait pas dormi de toute la nuit. Il se mit à l'interroger. S'animant tout à coup, la fillette commença d'une voix enfantine et grasseyante un récit interminable où il était question de « maman » et de « tasse cassée ». Svidrigaïlov crut comprendre que c'était une enfant peu aimée. Sa mère, probablement une cuisinière de l'hôtel, s'adonnait à la boisson et la maltraitait sans cesse. La petite fille avait cassé une tasse et, craignant une correction, elle s'était, dans la soirée de la veille, enfuie de la maison par une pluie battante. Après être restée longtemps dehors, elle avait fini par rentrer secrètement, s'était cachée derrière l'armoire et avait passé toute la nuit là, tremblant, pleurant, effrayée de se voir dans l'obscurité, plus effrayée encore à la pensée qu'elle serait cruellement battue, et pour la tasse cassée, et pour la fugue dont elle s'était rendue coupable. Svidrigaïlov la prit dans ses bras, la porta à sa chambre et, l'ayant déposée sur son lit, se mit en devoir de la déshabiller. Elle n'avait pas de bas et ses chaussures trouées étaient aussi humides que si elles avaient trempé toute la nuit dans une mare. Quand il lui eut ôté ses vêtements, il la coucha et l'enveloppa avec soin dans la couverture. Elle s'endormit aussitôt. Ayant tout fini, Svidrigaïlov retomba dans ses pensées moroses. « De quoi me mêlais-je encore ?» se dit-il avec un sentiment de colère. « Quelle bêtise !» Dans son irritation, il prit la bougie pour se mettre à la recherche du garçon et quitter au plus tôt l'hôtel. « Peuh, une gamine » fit-il en lâchant un juron au moment où il ouvrait la porte. Mais il se retourna pour jeter un dernier coup d'œil sur la petite fille, s'assurer si elle dormait et comment elle dormait. Il souleva avec précaution la couverture qui cachait la tête. L'enfant dormait d'un profond sommeil. Elle s'était réchauffée dans le lit et ses joues pâles avaient déjà repris des couleurs. Toutefois, chose étrange, l'incarnat de son teint était beaucoup plus vif que celui qui se remarque à l'état normal chez les enfants. « C'est la rougeur de la fièvre, » pensa Svidrigaïlov. On aurait dit qu'elle avait bu. Ses lèvres purpurines paraissaient brûlantes. Soudain, il croit voir cligner légèrement les longs cils noirs de la petite dormeuse. Sous les paupières mi-closes se laisse deviner un jeu de prunelles malicieux, sournois, nullement enfantin. La fillette ne dormirait-elle pas et ferait-elle semblant de dormir? En effet, ses lèvres sourient. Leurs extrémités frémissent comme quand on étouffe une envie de rire. Mais voilà qu'elle cesse de se contraindre. Elle rit franchement. Quelque chose d'effronté, de provoquant, rayonne sur ce visage qui n'a plus rien de l'enfance. C'est le visage d'une prostituée, d'une cocotte française. Voilà que les deux yeux s'ouvrent tout grands. Ils enveloppent Svidrigaïlov d'un regard lascif et passionné. Il l'appelle, il rit. Rien de répugnant comme cette figure enfantine dont tous les traits respirent la luxure.
« Quoi ? À 5 ans ? »
murmure-t-il en proie à une véritable épouvante.
« Est-ce possible ? »
Mais voilà qu'elle tourne vers lui son visage enflammé. Elle lui tend les bras.
« Ah, oh, maudite !»
s'écrie avec horreur Svidrigaïlov. Gaïlov. Il lève la main sur elle et au même instant s'éveille. Il se retrouva couché sur son lit, enveloppé dans la couverture. La bougie n'était pas allumée, le jour se levait déjà.
« J'ai eu le cauchemar toute cette nuit !»
Et il se mit sur son séant et s'aperçut avec colère qu'il était tout courbaturé, tout brisé. Au dehors régnait un épais brouillard, au travers duquel on ne pouvait rien distinguer. Il était près de 5 heures. Svidrigaïlov avait dormi trop longtemps. Il se leva, remit ses vêtements encore humides, et, sentant le revolver dans sa poche, il le prit pour s'assurer si la capsule était bien placée. Ensuite il s'assit, et sur la première page de son carnet, écrivit quelques lignes en gros caractères. Après les avoir relues, il s'accouda sur la table et s'absorba dans ses réflexions. Les mouches se régalaient de la portion de veau restée intacte. Il les regarda longtemps, puis se mit à leur donner la chasse. À la fin, il s'étonna de l'occupation à laquelle il se livrait. Et, recouvrant tout à coup la conscience de sa situation, il sortit vivement de la chambre. Un instant après, il était dans la rue. Un épais brouillard couvrait la ville. Svidrigaïlov cheminait dans la direction de la petite Neva. Tandis qu'il marchait sur le glissant pavé de bois, il voyait en imagination l'île Petrovski avec ses petits sentiers, ses gazons, ses arbres, ses taillis. Pas un piéton, pas un fiacre sur toute l'étendue de la perspective. Les petites maisons jaunes, aux volets fermés, avait l'air sale et triste. Le froid et l'humidité commençaient à donner le frisson au promeneur matinal. De loin en loin, quand il apercevait l'enseigne d'une boutique, il la lisait machinalement. Arrivé au bout du pavé de bois, à la hauteur de la grande maison de pierre, il vit un chien, fort laid, qui traversait la chaussée en serrant sa queue entre ses jambes. Un homme, ivre-mort, gisait au milieu du trottoir, le visage contre terre. Svidrigaïlov regarda un instant l'ivrogne et passa outre. À gauche, un beffroi s'offrait à sa vue. « Bah !» pensa-t-il. « Voilà une place. À quoi bon aller dans l'île Petrovski ? Comme cela, la chose pourra être officiellement constatée par un témoin. » Souriant à cette nouvelle idée, il prit la rue. Là se trouvait le bâtiment que surmontait le beffroi. Contre la porte était appuyé un petit homme, enveloppé dans un manteau de soldat et coiffé d'un casque grec. En voyant Svidrigaïlov s'approcher, il lui jeta du coin de l'œil un regard maussade. Sa physionomie avait cette expression de tristesse hargneuse qui est la marque séculaire des visages israélites. Pendant quelque temps, tous deux s'examinèrent en silence. À la fin, il parut étrange aux factionnaires qu'un individu qui n'était pas ivre s'arrêtât ainsi à 3 pas de lui et le fixa sans dire un seul mot. « Qu'est-ce que vous voulez ? » demanda-t-il, toujours adossé contre la porte. « Mais rien, mon ami. Bonjour. Passez votre chemin. Mon ami, je vais à l'étranger. Comment à l'étranger ?
En Amérique.
En Amérique ? Svidrigaïlov prit le revolver dans sa poche et l'arma. Le soldat releva les sourcils. Dites donc, ce ne sont pas des plaisanteries à faire ici.
Pourquoi pas ?
Parce que ce n'est pas le lieu. N'importe, mon ami, la place est bonne tout de même. Si l'on t'interroge, tu répondras que je suis parti pour l'Amérique.
Il appuya le canon de son revolver contre sa tempe droite.
« On ne peut pas faire cela ici, ce n'est pas le lieu !» reprit le soldat en ouvrant des yeux de plus en plus grands. Svidrigaïlov pressa la détente. Chapitre 6. Ce même jour,
Entre 6 et 7 heures du soir, Raskolnikov se rendit chez sa mère et sa sœur. Les deux femmes habitaient maintenant dans la maison Bakaleyev, l'appartement dont Razoumikine leur avait parlé. En montant l'escalier, Raskolnikov semblait encore hésiter. Toutefois, pour rien au monde, il n'aurait rebroussé chemin. Il était décidé à faire cette visite. « D'ailleurs, elles ne savent encore rien, » pensait-il, « et elles sont déjà habituées à voir en moi un original. » Ses vêtements étaient souillés de boue et déchirés. D'autre part, la fatigue physique, jointe à la lutte qui se livrait en lui depuis près de 24 heures, avait rendu son visage presque méconnaissable. Le jeune homme avait passé la nuit entière, Dieu sait tout, mais du moins, son parti était pris. Il frappa à la porte, sa mère lui ouvrit. Dounetchka était sortie et la servante n'était pas non plus à la maison en ce moment. Pulcheri Alexandrovna resta d'abord muette de surprise et de joie. Puis elle prit son fils par la main et l'entraîna dans la chambre. « Ah, te voilà » dit-elle d'une voix que l'émotion faisait trembler. « Ne te fâche pas, Rodia, si j'ai la sottise de t'accueillir avec des larmes. C'est le bonheur qui les fait couler. Tu crois que je suis triste ? Non, je suis gaie, je ris. Seulement, j'ai cette sotte habitude de verser des larmes. Depuis la mort de ton père, je pleure comme cela à propos de tout. Assieds-toi, mon chéri. Tu es fatigué, je le vois. Ah, oh, que tu es sale !»« J'ai reçu la pluie hier, maman, » commença Raskolnikov. « Laisse donc !» l'interrompit vivement Pulcheri Alexandrovna. « Tu pensais que j'allais t'interroger avec ma curiosité de vieille femme ? Sois tranquille, je comprends tout. Maintenant, je suis déjà un peu initiée aux usages de Pétersbourg. Et vraiment, je vois moi-même qu'on est plus intelligent ici que chez nous. Je me suis dit, une fois pour toutes, que je n'avais pas besoin de m'immiscer dans tes affaires et de te demander des comptes. Pendant que, peut-être, tu as l'esprit occupé, Dieu sait de quelle pensée, j'irai, moi, te troubler par mes questions importunes. Ah, Seigneur, vois-tu, Rodia, je suis en train de lire pour la 3e fois l'article que tu as publié dans une revue. Dmitri Prokofitch me l'a apporté. Ça a été une révélation pour moi. Dès lors, en effet, je me suis tout expliqué et j'ai reconnu combien j'avais été bête. Voilà ce qui l'occupe, me suis-je dit. Il roule dans sa tête des idées nouvelles et il n'aime pas qu'on l'arrache à ses réflexions. Tous les savants sont ainsi. Malgré l'attention avec laquelle je te lis, il y a dans ton article, mon ami, bien des choses qui m'échappent. Mais, ignorante comme je suis, je n'ai pas lieu de m'étonner si je ne comprends pas tout. Montrez-le-moi donc, maman. Raskolnikov prit le numéro de la revue et jeta un rapide coup d'œil sur son article. Un auteur éprouve toujours un vif plaisir à se voir imprimé pour la première fois, surtout quand cet auteur n'a que 23 ans. Bien qu'en proie aux plus cruels soucis, notre héros ne put se soustraire à cette impression. Mais elle ne dura chez lui qu'un instant. Après avoir lu quelques lignes, il fronça le sourcil et une affreuse souffrance lui serra le cœur. Cette lecture lui avait soudain rappelé toutes les agitations morales des derniers mois. Ce fut avec un sentiment de violente répulsion qu'il jeta la brochure sur la table. « Mais toute bête que je suis, Rodia, je puis néanmoins juger que d'ici à très peu de temps, tu occuperas une des premières places, sinon la première dans le monde de la science. Et ils ont osé penser que tu étais fou. Ah ! Tu ne sais pas que cette idée leur était venue ? Ah, les pauvres gens ! Du reste, comment pourraient-ils comprendre ce que c'est que l'intelligence ? Dire pourtant que Dounetchka, oui, Dounetchka elle-même, n'était pas trop éloignée de le croire. Est-ce possible ? Il y a 6 ou 7 jours, Rodia, je me désolais en voyant comme tu es logée, habillée et nourrie. Mais maintenant, je reconnais que c'était encore une sottise de ma part. En effet, dès que tu le voudras,
avec ton esprit et ton talent, tu arriveras d'emblée à la fortune. Pour le moment, sans doute, tu n'y tiens pas. Tu t'occupes de choses beaucoup plus importantes.
Dounia n'est pas ici, maman.
Non, Rodia. Elle est très souvent dehors. Elle me laisse seule. Dmitri Prokofitch a la bonté de venir me voir, et il me parle toujours de toi. Il t'aime et t'estime, mon ami. Pour ce qui est de ta sœur, je ne me plains pas du peu d'égard qu'elle me témoigne. Elle a son caractère, comme j'ai le mien. Il lui plaît de me laisser ignorer ses affaires. Libre à elle. Moi, je n'ai rien de caché pour mes enfants. Sans doute, je suis persuadée que Dounia est fort intelligente. Que de plus, elle a beaucoup d'affection pour moi et pour toi. Mais je ne sais à quoi aboutira tout cela. Je regrette qu'elle ne puisse profiter de la bonne visite que tu me fais. À son retour, je lui dirai « En ton absence, ton frère est venu. Où étais-tu pendant ce temps-là » Toi, Rodia, ne me gâte pas trop. Passe chez moi quand tu pourras le faire sans te déranger. Si tu n'es pas libre, ne te gêne pas, je prendrai patience. Il me suffira de savoir que tu m'aimes. Je lirai tes ouvrages, j'entendrai parler de toi par tout le monde, et de temps en temps je recevrai ta visite. Que puis-je désirer de plus? Aujourd'hui, tu es venu consoler ta mère, je le vois. Brusquement, Pulcheria Alexandrovna fondit en larmes. « Me voilà encore. Ne fais pas attention à moi. Je suis folle. Ah, Seigneur, mais je ne pense à rien !» s'écria-t-elle en se levant tout à coup. « Il y a du café et je ne t'en offre pas. Tu vois ce que c'est que l'égoïsme des vieilles gens. Tout de suite, tout de suite !»«
Ce n'est pas la peine, maman. Je vais m'en aller. Je ne suis pas venue ici pour cela. » « Écoutez-moi, je vous en prie. »
Pulcheria Alexandrovna s'approcha timidement de son fils. « Maman, quoi qu'il arrive, quoi que vous entendiez dire de moi, m'aimerez-vous comme maintenant ? » demanda-t-il soudain. Ces paroles jaillirent spontanément du fond de son cœur avant qu'il eût eu le temps d'en mesurer la portée.
« Rodia, Rodia, qu'as-tu ? Comment peux-tu donc me faire cette question ? Qui osera jamais me dire du mal de toi? Si quelqu'un se permettait cela, je refuserais de l'entendre et le chasserais de ma présence.
Le but de ma visite était de vous assurer que je vous ai toujours aimé. Et maintenant, je suis bien aise que nous soyons seuls. Bien aise même que Dounechka ne soit pas ici. Poursuivit-il avec le même élan. Peut-être serez-vous malheureuse. Sachez cependant que votre fils vous aime maintenant plus que lui-même et que vous avez eu tort de mettre en doute sa tendresse. Jamais je ne cesserai de vous aimer. Allons assez. J'ai cru que je devais avant tout vous donner cette assurance.
Pulcheria Alexandrovna embrassa silencieusement son fils, le pressa contre sa poitrine et pleura sans bruit.
Je ne sais ce que tu as, Rodia. Dit-elle enfin. Jusqu'ici, j'avais cru tout bonnement que notre présence t'ennuyait. À présent, je vois qu'un grand malheur te menace et que tu vis dans l'anxiété. Je m'en doutais, Rodia. Pardonne-moi de te parler de cela. J'y pense toujours et j'en perds le sommeil. La nuit dernière, ta sœur a eu le délire et dans les paroles qu'elle prononçait, ton nom revenait sans cesse. J'ai entendu quelques mots, mais je n'y ai rien compris. Depuis ce matin, jusqu'au moment de ta visite, j'ai été comme un condamné qui attend l'exécution. J'avais le pressentiment de quelque chose. Rodia, Rodia, où vas-tu donc? Car tu es sur le point de partir, n'est-ce pas? Oui. Je l'avais deviné, mais je puis aller avec toi, si tu dois partir. Dounia nous accompagnera. Elle t'aime beaucoup. S'il le faut, eh bien, nous prendrons aussi avec nous Sophie Semenovna. Vois-tu, je suis toute prête à l'accepter pour fille. Dmitri Prokofitch nous aidera dans nos préparatifs de départ. Mais où vas-tu donc?
Adieu, maman.
Quoi? Aujourd'hui même?
s'écria-t-elle, comme s'il se fût agi d'une séparation éternelle. « Je ne puis pas rester. Il faut absolument que je vous quitte. »«
Et je ne puis pas aller avec toi ?»«
Non, mais mettez-vous à genoux et priez Dieu pour moi. Il entendra peut-être votre prière. »
« Puisse-t-il l'entendre? Je vais te donner ma bénédiction. Oh, Seigneur !»
Oui, il était bien aise que sa sœur n'assista pas à cette entrevue. Pour s'épancher en liberté, sa tendresse avait besoin du tête-à-tête, et un témoin quelconque, fût-ce Dounia, l'aurait gêné. Il tomba aux pieds de sa mère et les baisa. Pulcheria Alexandrovna et son fils s'embrassèrent en pleurant. La première ne fit plus aucune question. Elle avait compris que le jeune homme traversait une crise terrible et que son sort allait se décider dans un moment.
« Rodia, mon chéri, mon premier-né, » dit-elle à travers ses sanglots, « te voilà maintenant tel que tu étais dans ton enfance. C'est ainsi que tu venais m'offrir tes caresses et tes baisers. Jadis, du vivant de ton père, lui et moi n'avions, au milieu de nos malheurs, d'autres consolations que ta présence. Et depuis que je l'ai enterré, combien de fois n'avons-nous pas, toi et moi, pleuré sur sa tombe en nous tenant embrassés comme à présent. Si je pleure depuis longtemps, c'est que mon cœur maternel avait des pressentiments sinistres. Le soir où nous sommes arrivés à Pétersbourg, dès notre première entrevue, ton visage m'a tout appris. Et aujourd'hui, quand je t'ai ouvert la porte, j'ai pensé, en te voyant, que l'heure fatale était venue.
Rodia, Rodia, tu ne pars pas tout de suite.
Non.
Tu viendras encore.
Oui, je viendrai.
Rodia, ne te fâche pas. Je n'ose t'interroger. Dis-moi seulement deux mots. Tu vas loin d'ici?
Fort loin.
Tu auras là un emploi, une position?
J'aurai ce que Dieu m'enverra. Priez seulement pour moi. »
Raskolnikov voulait sortir, mais elle se cramponna à lui et le regarda en plein visage avec une expression de désespoir.
« Assez, maman, » dit le jeune homme, qui, témoin de cette douleur navrante, regrettait profondément d'être venu.
« Tu ne pars pas pour toujours. Tu ne vas pas te mettre en route tout de suite. Tu viendras demain. »
« Oui, oui, adieu. »
Il réussit enfin à s'échapper. La soirée était chaude, sans être étouffante. Depuis le matin, le temps s'était éclairci. Raskolnikov regagna vivement sa demeure. Il voulait avoir tout fini avant le coucher du soleil. Pour le moment, toute rencontre lui eût été fort désagréable. En montant à sa chambre, il remarqua que Nastasia, alors occupée à préparer le thé, avait interrompu sa besogne et le suivait d'un œil curieux.
« Est-ce qu'il y aurait quelqu'un chez moi ?» se dit-il.
Et malgré lui, il songea à l'odieux Porphyre. Mais quand il ouvrit la porte de son logement, il aperçut Dounetchka. La jeune fille, assise sur le divan, était pensive. Sans doute, elle attendait son frère depuis longtemps. Il s'arrêta sur le seuil. Elle eut un mouvement d'effroi, se redressa et le regarda longuement. Une immense désolation se lisait dans les yeux de Dounia. Ce seul regard prouva à Raskolnikov qu'elle savait tout. « Dois-je m'avancer vers toi ou me retirer ? » demanda-t-il avec hésitation.
« J'ai passé toute la journée à t'attendre chez Sophie Semenovna. Nous comptions t'y voir. »
Raskolnikov entra dans la chambre et se laissa tomber avec accablement sur une chaise.
« Je me sens faible, Dounia, je suis très fatiguée, et en ce moment surtout, j'aurai besoin de toutes mes forces. »
Il jeta sur sa sœur un regard défiant. « Où as-tu donc été durant toute la nuit dernière ?»«
Je ne m'en souviens pas bien.
Vois-tu, ma sœur, je voulais prendre un parti définitif, et plusieurs fois je me suis approchée de la Neva. Cela, je me le rappelle. Mon intention était d'en finir ainsi, mais je n'ai pu m'y résoudre. » Acheva-t-il à voix basse, en cherchant à lire sur le visage de Dounia l'impression produite par ses paroles.
« Dieu soit loué! C'était précisément ce que nous craignions, Sophie Semenovna et moi. Ainsi, tu crois encore à la vie, Dieu soit loué. »
Raskolnikov eut un sourire amer. Je n'y croyais pas, mais tout à l'heure j'ai été chez notre mère et nous nous sommes embrassés en pleurant. Je suis incrédule et pourtant je lui ai demandé de prier pour moi. Dieu sait comment cela se fait, Dounetchka. Moi-même, je ne comprends rien à ce que j'éprouve.
Tu as été chez notre mère? Tu lui as parlé?
S'écria Dounia épouvantée.
Se peut-il que tu aies eu le courage de lui dire cela?
Non, je ne lui ai pas dit, verbalement. Mais elle se doute de quelque chose. Elle t'a entendu rêver tout haut la nuit dernière. Je suis sûre qu'elle a déjà deviné la moitié de ce secret. J'ai peut-être eu tort d'aller la voir. Je ne sais même pourquoi je l'ai fait. Je suis un homme bas, Dounia.
Oui, mais un homme prêt à aller au-devant de l'expiation. Tu iras, n'est-ce pas?
À l'instant. Pour fuir ce déshonneur, je voulais me noyer, Dounia. Mais au moment où j'allais me jeter à l'eau, je me suis dit qu'un homme fort ne doit pas avoir peur de la honte.
C'est de l'orgueil, Dounia?
Oui, Rodia. Une sorte d'éclair s'alluma dans ses yeux ternes. Il semblait heureux de penser qu'il avait conservé son orgueil.
Tu ne penses pas, ma sœur, que j'ai eu simplement peur de l'eau?
Demanda-t-il avec un sourire désagréable.
Ah, Rodia, assez!
Répondit la jeune fille blessée de cette supposition. Tous deux restèrent silencieux pendant 10 minutes. Raskolnikov tenait les yeux baissés. Dounetchka le considérait avec une expression de souffrance. Tout à coup, il se leva.
« L'heure s'avance. Il est grand temps de partir. Je vais me livrer. Mais je ne sais pourquoi je fais cela. »
De grosses larmes jaillirent sur les joues de Dounetchka.
« Tu pleures, ma sœur? Mais peux-tu me tendre la main ?»«
En doutais-tu ?» Elle le serra avec force contre sa poitrine.
Est-ce qu'en t'offrant à l'expiation, tu n'effaceras pas la moitié de ton crime?
S'écria-t-elle. En même temps, elle embrassait son frère.
Mon crime? Mon crime?
Répliqua-t-il dans un soudain accès de colère.
Celui d'avoir tué une vermine sale et malfaisante? Une vieille usurière nuisible à tout le monde? Un vampire qui suçait le sang des pauvres? Mais un tel meurtre devrait obtenir l'indulgence pour 40 péchés.
Je n'y pense pas et ne songe nullement à l'effacer.
Qu'ont-ils tous à me crier de tous côtés « Crime, crime !» Maintenant que je me suis décidé à affronter gratuitement ce déshonneur. Maintenant seulement l'absurdité de ma lâche détermination m'apparaît dans tout son jour. C'est simplement par bassesse et par impuissance que je me résous à cette démarche. À moins que ce ne soit aussi par intérêt, comme me le conseillait ce Porphyre.
Frère, frère, que dis-tu? Mais tu as versé le sang,
répondit Dounia consternée.
Eh bien, quoi? Tout le monde le verse,
poursuivit-il avec une véhémence croissante.
Il a toujours coulé à flot sur la terre. Les gens qui le répandent comme du champagne montent ensuite au Capitole et sont proclamés bienfaiteurs de l'humanité. Examine les choses d'un peu plus près avant de les juger. Je voulais faire, moi aussi, du bien aux hommes. Des centaines, des milliers de bonnes actions eussent amplement racheté cette unique sottise. Et quand je dis sottise, je devrais dire plutôt maladresse, car l'idée n'était pas si sotte qu'elle en a l'air maintenant. Après l'insuccès, les desseins les mieux concertés paraissent idiots. Je ne voulais, par cette bêtise, que me créer une situation indépendante, assurer mes premiers pas dans la vie, me procurer des ressources. Ensuite, j'aurais pris mon essor. Mais j'ai échoué. C'est pourquoi je suis un misérable. Si j'avais réussi, on me tresserait des couronnes, tandis qu'à présent, je ne suis plus bon qu'à jeter aux chiens.
Mais non, il ne s'agit pas de cela, mon frère. Que dis-tu?
Il est vrai, je n'ai pas procédé selon les règles de l'esthétique. « Décidément, je ne comprends pas pourquoi il est plus glorieux de lancer des bombes
contre une ville assiégée, que d'assassiner quelqu'un à coups de hache. La crainte de l'esthétique est le premier signe de l'impuissance. Jamais je ne l'ai mieux senti qu'à présent, et moins que jamais je comprends quel est mon crime. Jamais je n'ai été plus fort, plus convaincu qu'en ce moment. » Son visage pâle et défait s'était subitement coloré. Mais comme il venait de proférer cette dernière exclamation, ses yeux rencontrèrent par hasard ceux de Dounia. Elle le regardait avec tant de tristesse que son exaltation tomba tout à coup. Il ne put s'empêcher de se dire qu'en somme, il avait fait le malheur de ces deux pauvres femmes. « Dounia, chère, si je suis coupable, pardonne-moi, quoique je ne mérite aucun pardon si réellement je suis coupable. Adieu, ne disputons pas ensemble. Il est temps, grand temps de partir. Ne me suis pas, je t'en supplie, j'ai encore une visite à faire. Va à l'instant retrouver notre mère et reste auprès d'elle. Je te le demande en grâce, c'est la dernière prière que je t'adresse. Ne la quitte pas. Je l'ai laissée fort inquiète et je crains qu'elle ne résiste pas à son chagrin. Ou elle mourra ou elle deviendra folle. Veille donc sur elle. Razumiki ne vous abandonnera pas. Je lui ai parlé. Ne pleure pas sur moi. Quoique assassin, je tâcherai d'être toute ma vie courageux et honnête. Peut-être entendras-tu un jour parler de moi. Je ne vous déshonorerai pas. Tu verras. Je prouverai encore. Maintenant, au revoir. » Se hâta-t-il d'ajouter, en remarquant une étrange expression dans les yeux de Dounia, tandis qu'il faisait ses promesses. « Pourquoi pleures-tu ainsi ? Ne pleure pas, nous ne nous quittons pas pour toujours. »« Ah oui, attends, j'oubliais. » Il alla prendre sur la table un gros livre couvert de poussière, l'ouvrit et en tira une petite aquarelle peinte sur ivoire. C'était le portrait de la fille de sa logeuse, la jeune personne qu'il avait aimée. Pendant un instant, il considéra ce visage expressif et souffreteux, puis il baisa le portrait et le remit à Dounetchka. « J'ai bien des fois causé de cela avec elle seule, » dit-il rêveusement. « J'ai fait confidence à son cœur de ce projet qui devait avoir une issue si lamentable. « Sois tranquille, » continua-t-il en s'adressant à Dounia. « Elle en a été révoltée tout autant que toi, et je suis bien aise qu'elle soit morte. » Puis, revenant à l'objet principal de ses préoccupations. « L'essentiel maintenant, dit-il, est de savoir si j'ai bien calculé ce que je vais faire et si je suis prêt à en accepter toutes les conséquences. On prétend que cette épreuve m'est nécessaire. Est-ce vrai? Quelle force morale aurais-je acquise quand je sortirai du bagne, brisé par 20 années de souffrance? Sera-ce alors la peine de vivre? Et je consens à porter le poids d'une existence pareille? Oh, j'ai senti que j'étais lâche ce matin, au moment de me jeter dans la Neva. » À la fin, tous deux sortirent. Dounia n'avait été soutenue durant cette pénible entrevue que par son amour pour son frère. Ils se quittèrent dans la rue. Après avoir fait 50 pas, la jeune fille se retourna pour voir une dernière fois Raskolnikov. Lorsqu'il fut arrivé au coin de la rue, lui-même se retourna aussi. Leurs yeux se rencontrèrent, mais, remarquant que le regard de sa sœur était fixé sur lui, il fit un geste d'impatience et même de colère pour l'inviter à continuer son chemin. Ensuite, il disparut au tournant de la rue. Chapitre 7. La nuit commençait à tomber quand il arriva chez Sonia. Pendant toute la journée, la jeune fille l'avait attendue avec anxiété. Dès le matin, elle avait reçu la visite de Dounia. Celle-ci était allée la voir, ayant appris la veille, par Svidrigailov, que Sophie Semenovna savait cela. Nous ne rapporterons pas en détail la conversation des deux femmes. Bornons-nous à dire qu'elles pleurèrent ensemble et se lièrent d'une étroite amitié. De cette entrevue, Dounia emporta du moins la consolation de penser que son frère ne serait pas seul. C'était Sonia qui la première avait reçu sa confession. C'était à elle qu'il s'était adressé, lorsqu'il avait senti le besoin de se confier à un être humain. Elle l'accompagnerait en quelque lieu que la destinée l'envoya. Sans avoir fait de questions à cet égard, Avdotia Romanovna en était sûre. Elle considérait Sonia avec une sorte de vénération qui rendait la pauvre fille toute confuse, car celle-ci se croyait indigne de lever les yeux sur Dounia. Depuis sa visite chez Raskolnikov, l'image de la charmante personne qu'il avait si gracieusement saluée ce jour-là était restée dans son âme, comme une des visions les plus belles et les plus ineffaçables de sa vie. À la fin, Dounetchka se décida à aller attendre son frère au domicile de ce dernier, se disant qu'il ne pourrait faire autrement que d'y passer. Sonia ne fut pas plutôt seule que la pensée du suicide probable de Raskolnikov lui ôta tout repos. C'était aussi la crainte de Dounia. Mais en causant ensemble, les deux jeunes filles s'étaient donné l'une à l'autre toutes sortes de raisons pour se tranquilliser, et elles y avaient en partie réussi. Dès qu'elles se furent quittées, l'inquiétude se réveilla chez chacune d'elles. Sonia se rappela ce que Svidrigaïlov lui avait dit la veille. « Raskolnikov n'a que le choix entre deux alternatives, aller en Sibérie ou... » De plus, elle connaissait l'orgueil du jeune homme et son absence de sentiments religieux. Est-il possible qu'il se résigne à vivre uniquement par pusillanimité, par crainte de la mort ? Pensait-elle avec désespoir. Déjà, elle ne doutait plus que le malheureux n'eût mis fin à ses jours, quand il entra chez elle. Un cri de joie s'échappa de la poitrine de la jeune fille, mais lorsqu'elle eut observé plus attentivement le visage du visiteur, elle pâlit soudain. « Allons, oui !» dit en riant Raskolnikov. « Je viens chercher tes croix, Sonia. C'est toi qui m'as engagé à aller au carrefour. Maintenant que je vais m'y rendre, d'où vient que tu as peur ?» Sonia le considéra avec étonnement. Ce ton lui paraissait étrange. Un frisson parcourut son corps. Mais, au bout d'une minute, elle comprit que cette assurance était feinte. Raskolnikov, en lui parlant, regardait dans le coin et semblait craindre de fixer ses yeux sur elle. « Vois-tu, Sonia, j'ai jugé que cela vaudrait mieux. Il y a ici une circonstance, ce serait trop long à raconter et je n'en ai pas le temps. Sais-tu ce qui m'irrite ? Je me sens furieux à la pensée que, dans un instant, toutes ces brutes m'entoureront, braqueront leurs yeux sur moi, me poseront de stupides questions auxquelles il faudra répondre, me montreront du doigt. Tu sais, je n'irai pas chez Porphyre. Il m'est insupportable. Je préfère aller trouver mon ami Poudre. Ce que celui-là sera surpris. Je puis compter sur un joli succès d'étonnement. Mais il faudrait avoir plus de sang-froid. Dans ces derniers temps, je suis devenu fort irritable. Le croiras-tu ? Peu s'en est fallu tantôt que je n'ai montré le poing à ma sœur, et cela parce qu'elle s'était retournée pour me voir une dernière fois. Suis-je tombé assez bas ? Eh bien, où sont les croix ? Le jeune homme ne semblait pas dans son état normal. Il ne pouvait ni rester une minute en place, ni fixer sa pensée sur un objet. Ses idées se succédaient sans transition, ou pour mieux dire, il battait la campagne. Ses mains tremblaient légèrement. Sonia gardait le silence. Elle tira d'une boîte deux croix, l'une en cyprès, l'autre en cuivre. Puis elle se signa, et après avoir répété la même cérémonie sur la personne de Raskolnikov, lui passa au cou la croix de cyprès. « C'est une manière symbolique d'exprimer que je me charge d'une croix, comme si d'aujourd'hui seulement je commençais à souffrir. La croix de cyprès, c'est celle des petites gens. La croix de cuivre appartenait à Élisabeth. Tu la gardes pour toi. Montre-la un peu. » Ainsi elle la portait, à ce moment-là. Je connais deux autres objets de piété, une croix d'argent et une image. Je les ai jetés alors sur la poitrine de la vieille. Voilà ce que je devrais maintenant me mettre au cou. Mais je ne dis que des fadaises et j'oublie mon affaire. Je suis distrait. Vois-tu, Sonia, Je suis venu surtout pour te prévenir, afin que tu saches. Eh bien, voilà tout. Je ne suis venu que pour cela. Je croyais pourtant avoir autre chose à te dire. Voyons, tu as toi-même exigé de moi cette démarche. Je vais être mis en prison, et ton désir sera satisfait. Pourquoi donc pleures-tu? Toi aussi, cesse, assez. Ah, que tout cela m'est pénible. À la vue de Sonia en larmes, son cœur se serrait. « Que suis-je pour elle ? » se disait-il à part soi. « Pourquoi s'intéresse-t-elle à moi comme pourrait le faire ma mère ou Dounia ? Elle sera ma gnagna. » « Fais le signe de la croix. Dis une petite prière !» supplia d'une voix tremblante la jeune fille. « Oh, soit, je prierai tant que tu voudras. Et de bon cœur, Sonia, de bon cœur. » Ce n'était pas tout ce qu'il avait envie de dire. Il fit plusieurs signes de croix. Sonia noua autour de sa tête un mouchoir vert en drap de dame, le même, probablement, dont Marmeladov avait parlé naguère au cabaret et qui servait alors à toute la famille. Cette pensée traversa l'esprit de Raskolnikov, mais il s'abstint de questionner à ce sujet. Il commençait à s'apercevoir qu'il avait des distractions continuelles, et qu'il était extrêmement troublé. Cela l'inquiétait. Tout à coup, il remarqua que Sonia se préparait à sortir avec lui. « Qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Reste, reste! Je veux être seul !» s'écria-t-il d'une voix irritée, et il se dirigea vers la porte. « Quel besoin d'aller là avec toute une suite !» grommela-t-il en sortant. Sonia n'insista point. Il ne lui dit même pas adieu. Il l'avait oublié. Une seule idée l'occupait maintenant. « Est-ce que réellement c'en est fait ?» se demandait-il tout en descendant l'escalier. « N'y a-t-il pas moyen de revenir en arrière, de tout arranger et de ne pas aller là ?» Néanmoins, il poursuivit sa marche, comprenant soudain que l'heure des hésitations était passée. Dans la rue, il se rappela qu'il n'avait pas dit adieu à Sonia, qu'elle s'était arrêtée au milieu de la chambre, qu'un ordre de lui l'avait comme clouée à sa place. Il se posa alors une autre question, qui depuis quelques minutes hantait son esprit sans se formuler nettement. « Pourquoi lui ai-je fait cette visite? Je lui ai dit que je venais pour affaire. Quelle affaire? Je n'en ai absolument aucune. Pour lui apprendre que je vais là? Cela était bien nécessaire. » Pour lui dire que je l'aime? Allons donc. Je viens tout à l'heure de la repousser comme un chien. Quant à sa croix, quel besoin en avais-je? Oh, que je suis tombée bas! Non, ce qu'il me fallait, c'était ses larmes. Ce que je voulais, c'était jouir des déchirements de son cœur. Peut-être aussi n'ai-je cherché, en allant la voir, qu'à gagner du temps, à retarder un peu le moment fatal. Et j'ai osé rêver de haute destinée. Je me suis cru appelée à faire de grandes choses. Moi, si vile, si misérable, si lâche. » Il cheminait le long du quai et n'avait plus loin à aller. Mais quand il arriva au pont, il suspendit un instant sa marche, puis se dirigea brusquement vers le marché au foin. Ses regards se portaient avidement à droite et à gauche. Il s'efforçait d'examiner chaque objet qu'il rencontrait et ne pouvait concentrer son attention sur rien. « Dans 8 jours, dans 1 mois, songeait-il, je repasserai sur ce pont. Une voiture cellulaire m'emportera quelque part. De quel œil alors contemplerai-je ce canal? Remarquerai-je encore l'enseigne que voici? Le mot « compagnie » est écrit là. Le lirai-je alors comme je le lis aujourd'hui? Quelles seront mes sensations et mes pensées? Mon Dieu, que toutes ces préoccupations sont mesquines! Sans doute cela est curieux, dans son genre. De quoi vais-je m'inquiéter? Je fais l'enfant, je pose vis-à-vis de moi-même. Pourquoi, au fait, rougirais-je de mes pensées? Oh, quelle cohue! Ce gros homme, un Allemand selon toute apparence, qui vient de me pousser, sait-il à qui il a donné un coup de coude? Cette femme qui tient un enfant par la main et qui demande l'aumône me croit peut-être plus heureux qu'elle. Ce serait drôle. Je devrais bien lui donner quelque chose pour la curiosité du fait.
Bah, je me trouve avoir 5 kopecks en poche, par quel hasard.
Tiens, prends, Matouchka.
Que Dieu te conserve, fit la mendiante d'un ton pleurard.
Le marché au foin était alors rempli de monde. Cette circonstance déplaisait fort à Raskolnikov. Toutefois, il se dirigea précisément du côté où la foule était le plus compacte. Il aurait acheté la solitude à n'importe quel prix, mais il sentait en lui-même qu'il n'en pourrait jouir une seule minute. Arrivé au milieu de la place, le jeune homme se rappela tout à coup les paroles de Sonia. « Va au carrefour, salue le peuple, baise la terre que tu as souillée par ton péché, et dis tout haut, à la face du monde, « Je suis un assassin !» À ce souvenir, il trembla de tout son corps. Les angoisses des jours précédents avaient tellement desséché son âme qu'il fut heureux de la trouver encore accessible à une sensation d'un autre ordre et s'abandonna tout entier à celle-ci. Un immense attendrissement s'empara de lui, ses yeux se remplirent de larmes. Il se mit à genoux au milieu de la place, se courba jusqu'à terre et baisa avec joie le sol boueux. Après s'être relevé, il s'agenouilla de nouveau. « En voilà un qui ne s'est pas ménagé !» remarqua un gars à côté de lui. Cette observation fut accueillie par des éclats de rire. « C'est un pèlerin qui va à Jérusalem, mes amis. Il prend congé de ses enfants, de sa patrie. Il salue tout le monde, il donne le baiser d'adieu à la ville de Pétersbourg et au sol de la capitale. » ajouta un bourgeois légèrement pris de boisson. « Il est encore tout jeune ? » dit un troisième. « C'est un noble !» observa sérieusement quelqu'un. « Au jour d'aujourd'hui, on ne distingue plus les nobles de ceux qui ne le sont pas. » En se voyant l'objet de l'attention générale, Raskolnikov perdit un peu de son assurance, et les mots « j'ai tué » qui allaient peut-être sortir de sa bouche expirèrent sur ses lèvres. Les exclamations, les lazzi de la foule le laissèrent d'ailleurs indifférent, et ce fut avec calme qu'il prit la direction du commissariat de police. Chemin faisant, une seule vision attirait ses regards. Du reste, il s'était attendu à la rencontrer sur sa route, et elle ne l'étonna pas. Au moment où, sur le marché au foin, il venait de se prosterner pour la seconde fois jusqu'à terre, il avait aperçu, à 50 pas de lui, Sonia. La jeune fille avait essayé d'échapper à sa vue en se cachant derrière une des baraques en bois qui se trouve sur la place. Ainsi, elle l'accompagnait, tandis qu'il gravissait ce calvaire. Dès cet instant, Raskolnikov acquit la conviction que Sonia était à lui pour toujours et le suivrait partout, dût sa destinée le conduire au bout du monde. Le voici arrivé au lieu fatal. Il entra dans la cour d'un pas assez ferme. Le bureau de police était situé au 3e étage. « Avant que je sois monté là-haut, j'ai encore le temps de me retourner, » pensait le jeune homme. Tant qu'il n'avait pas avoué, il aimait à se dire qu'il pouvait changer de résolution. Comme lors de sa première visite, il trouva l'escalier couvert d'ordures, empuanti par les exhalaisons que vomissaient les cuisines ouvertes sur chaque palier. Ses jambes se dérobaient sous lui, tandis qu'il montait les marches. Un instant, il s'arrêta pour reprendre haleine, se remettre, préparer son entrée. Mais à quoi bon ? Pourquoi ? Se demanda-t-il tout à coup. Puisqu'il faut vider cette tasse, peu importe comment je la boirai, plus elle sera amère, mieux cela vaudra. Puis s'offrit à son esprit l'image d'Ilia Petrovitch, le lieutenant Poudre. Au fait, est-ce à lui que je vais parler ? Ne pourrais-je m'adresser à un autre, à Nikodim Fomitch, par exemple ? Si j'allais de ce pas trouver le commissaire de police à son domicile personnel et lui raconter la chose dans une conversation privée ? Non, non, je parlerai à Poudre, ce sera plus vite fini. Frissonnant, ayant à peine conscience de lui-même, Raskolnikov ouvrit la porte du commissariat. Cette fois, il n'aperçut dans l'antichambre qu'un dvornik et un homme du peuple. L'appariteur ne fit même pas attention à lui. Le jeune homme passa dans la pièce suivante où travaillaient deux scribes. Zametov n'était pas là. Nikodim Fomitch non plus. « Il n'y a personne ?» fit le visiteur en s'adressant à l'un des employés. « Qui demandez-vous ? » ?»«
Ah ! Sans entendre ses paroles, sans voir son visage, j'ai deviné la présence d'un Russe. Comme il est dit dans je ne sais plus quel conte,
« Mon respect !» jeta brusquement une voix connue. Raskolnikov tressaillit. Poudre était devant lui. Il venait de sortir d'une troisième chambre.
« La destinée l'a voulu, » pensa le visiteur. « Comment est-il ici ?»«
Vous, chez nous ? À quelle occasion ?»
s'écria Ilia Petrovitch, qui paraissait de très bonne humeur et même un peu lancé.
« Si vous êtes venu pour affaires, il est encore trop tôt. C'est même par hasard que je me trouve ici. Du reste, en quoi puis-je ? J'avoue que je ne vous...
Comment ? Comment ? Pardonnez-moi.
Raskolnikov.
Ah oui, Raskolnikov. Avez-vous pu croire que je l'avais oublié ? Je vous en prie, ne me croyez pas si... Rodionitch, n'est-ce pas ?
Rodion Romanitch.
Oui, Rodion Romanitch. Rodion Romanitch. Je l'avais sur la langue. Je vous avoue que je regrette sincèrement la façon dont nous avons agi avec vous dans le temps. Plus tard, on m'a expliqué les choses. J'ai appris que vous étiez un jeune écrivain, un savant même. J'ai su que vous débutiez dans la carrière des lettres. Eh mon Dieu, quel est le littérateur, quel est le savant qui, à ses débuts, n'a pas mené plus ou moins la vie de bohème. Ma femme et moi, nous estimons l'un et l'autre la littérature. Mais chez ma femme, c'est une passion. Elle raffole des lettres et des arts. Sauf la naissance, tout le reste peut s'acquérir par le talent, le savoir, l'intelligence, le génie. Un chapeau, par exemple, qu'est-ce que cela signifie ? Un chapeau est une galette. Je l'achète chez Zimmermann. Mais ce qui s'abride sous le chapeau, cela, je ne l'achète pas. J'avoue que je voulais même me rendre chez vous pour vous fournir des explications. Mais j'ai pensé que peut-être vous...
Avec tout cela, je ne vous demande pas quel est l'objet de votre visite.
Il paraît que votre famille est maintenant à Pétersbourg.
Oui, ma mère et ma sœur.
J'ai même eu l'honneur et le plaisir de rencontrer votre sœur. C'est une personne aussi charmante que distinguée. Vraiment, je déplore de tout mon cœur l'altercation que nous avons eue ensemble autrefois. Quant aux conjectures fondées sur votre évanouissement, on en a reconnu depuis l'éclatante fausseté. Je comprends l'indignation que vous avez ressentie. À présent que votre famille habite Pétersbourg, vous allez peut-être changer de logement ?
Non, pas pour le moment. J'étais venue demander... Je croyais trouver ici Zametov.
Ah, c'est vrai, vous vous étiez lié avec lui, je l'ai entendu dire. Eh bien, Zametov n'est plus chez nous.
Oui, nous avons perdu Alexandre Grigorievitch, et il nous a quittés depuis hier. Il y a même eu, avant son départ, un échange de gros mots entre lui et nous. C'est un petit galopin sans consistance, rien de plus. Il avait donné quelques espérances, mais il a eu le malheur de fréquenter notre brillante jeunesse, et il s'est mis en tête de passer des examens pour pouvoir faire de l'embarras et trancher du savant. Bien entendu, Zametov n'a rien de commun avec vous, par exemple, ou avec M. Razoumikine, votre ami. Vous autres, vous avez embrassé la carrière de la science, et les revers n'ont aucune prise sur vous. À vos yeux, les agréments de la vie ne sont rien. Vous menez l'existence austère, ascétique, monacale, de l'homme d'étude. Un livre, une plume derrière l'oreille, une recherche scientifique à faire, cela suffit à votre bonheur.
Moi-même, jusqu'à un certain point... Avez-vous lu la correspondance de Livingstone ?
Non. Moi, je l'ai lu. Maintenant, du reste, le nombre des nihilistes s'est considérablement accru, et ce n'est pas étonnant à une époque comme la nôtre. De vous à moi. Sans doute, vous n'êtes pas nihiliste. Répondez franchement, franchement.
Non.
Vous savez, n'ayez pas peur d'être franc avec moi, comme vous le seriez avec vous-même. Autre chose est le service, autre chose. Vous croyez que j'allais dire l'amitié? Vous êtes trompé. Pas l'amitié, mais le sentiment de l'homme et du citoyen, le sentiment de l'humanité et de l'amour pour le Tout-Puissant. Je puis être un personnage officiel, un fonctionnaire. Je n'en dois pas moins sentir toujours en moi l'homme et le citoyen. Vous parliez de Zametov. Eh bien, Zametov est un garçon qui copie le chic français, qui fait du tapage dans les mauvais lieux quand il a bu un verre de champagne ou de vin du Don. Voilà ce qu'est votre Zametov. J'ai peut-être été un peu vif avec lui. Mais si mon indignation m'a emporté trop loin, elle avait sa source dans un sentiment élevé, le zèle pour les intérêts du service. D'ailleurs, je possède un rang, une situation, une importance sociale. Je suis marié, père de famille, je remplis mon devoir d'homme et de citoyen, tandis que lui, qu'est-il? Permettez-moi de vous le demander. Je m'adresse à vous comme à un homme favorisé du bienfait de l'éducation. Tenez. Les sages-femmes se sont aussi multipliées au-delà de toute mesure. Raskolnikov regarda le lieutenant d'un air ahuri. Les paroles d'Ilia Petrovitch, qui, évidemment, sortaient de table, résonnaient pour la plupart à ses oreilles comme des mots vides de sens. Toutefois, il en comprenait tant bien que mal une partie. En ce moment, il questionnait des yeux son interlocuteur, et ne savait comment tout cela finirait. Je parle de ces jeunes filles qui portent les cheveux coupés à la Titus, continua l'intarissable Ilia Petrovitch. Je les appelle des sages-femmes, et le nom me paraît très bien trouvé. Elles suivent des cours de médecine, elles étudient l'anatomie. Alors, dites-moi que je vienne à être malade, est-ce que je me ferai traiter par une demoiselle? Ilia Petrovitch se mit à rire, enchanté de son esprit. J'admets la soif de l'instruction, mais ne peut-on pas s'instruire sans donner dans tous ses excès? Pourquoi être insolent? Pourquoi insulter de nobles personnalités comme le fait ce vaurien de Zametov? Pourquoi m'a-t-il injurié? Je vous le demande. Une autre épidémie qui fait de terribles progrès, c'est celle du suicide. On mange tout ce qu'on a, et ensuite on se tue. Des fillettes, des jouvenceaux, des vieillards se donnent la mort. Tenez, nous avons encore appris tantôt qu'un monsieur, récemment arrivé ici, venait de mettre fin à ses jours. Nil Pavlitch, comment se nommait le gentleman qui s'est brûlé la cervelle ce matin dans la Peterburskaya? Svidrigailov, répondit d'une voix enrouée quelqu'un qui se trouvait dans la pièce voisine. Raskolnikov frissonna. Svidrigailov s'est brûlé la cervelle? S'écria-t-il. Comment? Vous connaissiez Svidrigailov?
Oui, je le connaissais. Il était arrivé depuis peu ici.
Oui, en effet, il était arrivé depuis peu. Il avait perdu sa femme. C'était un débauché. Il s'est tiré un coup de revolver dans des conditions particulièrement scandaleuses. On a trouvé sur son cadavre un carnet où il avait écrit quelques mots « Je meurs en possession de mes facultés intellectuelles, qu'on n'accuse personne de ma mort. » Cet homme-là avait, dit-on, de la fortune. Comment donc le connaissiez-vous?
Ma sœur avait été institutrice chez lui.
Mais alors vous pouvez donner des renseignements sur lui. Vous n'aviez aucun soupçon de son projet?
Je l'ai vu hier. Il buvait du vin. Je ne me suis douté de rien.
Raskolnikov sentait comme une montagne sur sa poitrine.
Voilà que vous pâlissez encore, semble-t-il. L'atmosphère de cette pièce est si étouffante.
Oui, il est temps que je m'en aille,
balbutia le visiteur. « Excusez-moi, je vous ai dérangé. »« Allons donc, je suis toujours à votre disposition. Vous m'avez fait plaisir, et je suis bien aise de vous déclarer... »
En prononçant ces mots, Ilia Petrovitch tendit la main au jeune homme.
« Je voulais seulement... J'avais affaire à Zametov. »«
Je comprends, je comprends. Charmé de votre visite. »«
Je suis enchanté. Au revoir. » fit Raskolnikov avec un sourire. Il sortit d'un pas chancelant. La tête lui tournait. Il pouvait à peine se porter. Et en descendant l'escalier, force lui fut de s'appuyer au mur pour ne pas tomber. Il lui sembla qu'un dvornik, qui se rendait au bureau de police, le heurtait en passant, qu'un chien aboyait quelque part au premier étage et qu'une femme criait pour faire taire l'animal. Arrivé au bas de l'escalier, il entra dans la cour. Debout, non loin de la porte, Sonia, pâle comme la mort, le considérait d'un air étrange. Il s'arrêta en face d'elle. La jeune fille frappa ses mains l'une contre l'autre. Sa physionomie exprimait le plus affreux désespoir. À cette vue, Raskolnikov sourit. Mais de quel sourire ! Un instant après, il rentrait au bureau de police. Ilia Petrovitch était en train de fouiller dans des paperasses. Devant lui se tenait ce même Moujik qui, tout à l'heure, en montant l'escalier, avait heurté Raskolnikov.
« Ah, vous revoilà ? Vous avez oublié quelque chose ? Mais qu'avez-vous ? »
Les lèvres blêmes, le regard fixe, Raskolnikov s'avança lentement vers Ilia Petrovitch. S'appuyant de la main à la table devant laquelle le lieutenant était assis, il voulut parler, mais ne put proférer que des sons inintelligibles.
« Vous êtes souffrant ? Une chaise ! Voilà, asseyez-vous ! De l'eau !»
Raskolnikov se laissa tomber sur le siège qu'on lui offrait, mais ses yeux ne quittaient pas Ilia Petrovitch, dont le visage exprimait une surprise fort désagréable. Pendant une minute, tous deux se regardèrent en silence. On apporta de l'eau.
« C'est moi !»
commença Raskolnikov.
« Buvez !»
Le jeune homme repoussa du geste le verre qui lui était présenté, et d'une voix basse mais distincte, il fit, en s'interrompant à plusieurs reprises, la déclaration suivante. « C'est moi qui ai assassiné à coups de hache pour les voler la vieille prêteuse sur gage et sa sœur Elisabeth. » Ilia Petrovitch appela. De tous côtés, on accourut. Raskolnikov renouvela ses aveux.